Voici de la pensée pousse dans vos oreilles. Vous écoutez CKUT Radio FM 90.3.
Cœur à cœur avec toi, CKUT
90.3 FM.
CKUT, heart to heart with you.
FM sont disponibles en balado-diffusion.
Qu'est-ce que je fais?
Allez sur le site internet ckiafm.org et écoutez en ligne ou téléchargez votre émission préférée en MP3.
Ah, je me sens tellement mieux, là!
Je suis arrivé en 2012, 10 ans plus tard. Ça fait drôle à dire, mais ça m'a pris 10 ans. 10 ans avant de prendre la mesure des événements du printemps étudiant québécois. Du 15 septembre au 15 octobre, plus d'infos au 2012.ckiafm.org. 2012, mémoire à faire, une enquête orale sur un mouvement étudiant historique. Plus de détails au 2012.ckiafm.org.
Vous avez plus de 50 ans et vous aimez tricoter? Le Centre d'action bénévole du Contrefort vous invite à participer à la 5e édition du Tricodon.
Hein, un rigodon, où ça?
Non, tricodon, don. Bon, je continue. Pour vous inscrire, consultez le www.tricodon.org ou appelez au 418-479-3368. Venez tisser des liens dans la communauté. Nous remettons toutes vos réalisations à des organismes communautaires. Contactez-nous au 418-479-3368. Tu vas être là, hein?
Est-ce qu'il y a des rigodons?
Peut-être. Dread at the controls!
Yes, I, my reggae family. Ayman Raskiko pour t'inviter à écouter Dread Al Control Reggae Radio Show chaque mardi soir de 20h à 22h. Rendez-vous avec la vibration positive dans tout le style ska, rock, steady, roots, dub, dancehall, tout ça provenant des quatre coins de la planète reggae. So, reggae music mixé sur CKIA 88.3 FM, CKIAFM.org chaque mardi soir, roots and culture.
Tombé. La 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 la. Hein? Encore? La 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 la. La 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 la. La la la.
Écoutez le magazine Dignité Noire, présenté par Mbayaji Mbayriway. Au sommaire, cette semaine...
Bonsoir mesdames et messieurs. Tu me donnes le son. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Dignité Noire sous CKIA 88.3 FM. Nous sommes le 26 septembre 2022. Je m'appelle Mbaye, je suis en compagnie de Brice, mon fidèle compagnon à la mise en onde. Salut Brice, comment ça va? En forme?
Je vais bien, merci beaucoup.
Content de te voir, malgré la petite pluie qui nous rafraîchit un peu. Alors vous pouvez nous suivre toujours sur notre page Facebook Dignité Noire-CKIAFM. Si vous manquez nos émissions, c'est pas grave, elles sont toutes archivées en balado sur notre site web www.ckiafm.org. Puis ceux qui peuvent nous suivre aussi sur le poste radio, la fréquence est 88.3 FM simplement. Donc nous sommes avec vous chaque lundi de 19h à 20h et c'est toujours un plaisir renouvelé, jamais sans cesse renouvelé, de vous retrouver chaque lundi soir. Au programme ce soir, nous allons parler de du plan d'action pour intégrer davantage les personnes noires, les étudiants et étudiantes noires dans les sciences de la santé. Alors, je vais recevoir tantôt Monsieur Édouard Kouassi, qui est le président de l'Association médicale des personnes noires de Québec. Je savais pas qu'il y avait une telle association. Il paraît que ça existe depuis 30 ans. Il va nous en parler. Et puis, en collaboration avec la faculté de médecine de l'Université de Montréal, le sommet pour le développement socio-économique des jeunes noirs du Québec. Alors, cette association, ils ont lancé c'était le 18 septembre dernier, le plan d'action pour inclure davantage les étudiants, les jeunes noirs dans les métiers visant la santé, donc l'infirmerie, la santé, etc., être médecin, etc., les facultés de médecine en général, là, qui sont assez hermétiques quand même, en vertu du numerus clausus. Donc, ils ont la faculté de médecine de Montréal, de l'Université de Montréal, là, qui fait preuve de beaucoup d'inclusivité et d'ouverture depuis quelques années, a donc accouché ce plan d'action, qui n'est pas le premier. L'année dernière, je pense que ce département a aussi accouché d'un plan d'action pour inclure davantage les personnes autochtones dans les sciences de la santé. Donc, cette année, c'est le tour des personnes noires. Alors, je vais recevoir Monsieur Édouard Kouassi pour en parler. Et puis, à la fin de l'émission, ce sera la première chronique de notre nouveau chroniqueur, Renzi Michel, qui va nous parler. Donc, lui, sa chronique, comme je vous l'ai présenté il y a 2 ou 3 semaines, il va parler davantage de la pensée. Il va nous transmettre, nous faire partager la pensée, la riche pensée haïtienne. Vous savez, Haïti a produit d'innombrables intellectuels à travers l'histoire. Haïti a été le fer de lance de la lutte pour la dignité, la reconquête de la dignité noire. Alors, nous allons recevoir Michel aujourd'hui, qui fera sa première chronique, c'est son entrée en matière, qui va nous parler d'un intellectuel qui était témoin de l'occupation américaine de Haïti. Peu de gens savent que les États-Unis ont déjà occupé Haïti de 1915 à 1934. Évidemment, une occupation qui s'est soldée par un pillage monstre des ressources haïtiennes. Et donc, Michel va nous parler de M. Belgrade, qui était un intellectuel, homme d'État, témoin de cette occupation-là. Donc, Michel va nous rejoindre à 19h40-45 pour nous faire partager donc cette pensée haïtienne, ce pan de l'histoire haïtienne. Alors, mon cher Brice, il y a quand même l'événement cinématographique de la semaine, c'est quelque chose qui vient de ton pays. Hein? Les Béninois sont à l'honneur, là, avec The Woman King.
Oui, mais techniquement, d'entrée de jeu comme ça, je dirais que on n'est pas. Nous, les Béninois, on n'est pas vraiment hypés par le film.
Ah ouais? Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que vous allez sauter au plafond.
De façon générale, les Africains sont hypés, mais je pense spécialement les Béninois, ils ne sont pas.
Vous ne vous retrouvez pas dans l'histoire, ça ne reflète pas l'histoire.
Ça reflète l'histoire, mais juste une infime partie. Je pense qu'ils se sentent vraiment inspirés, mais ce n'est pas. Je pense que. Il y a eu de la fiction qui est rentrée dedans aussi. Là.
J'ai écouté dire qu'ils ont beaucoup mis l'aspect guerrier.
Oui.
Mais pas tous les autres aspects de ces.
Exactement.
C'est ce qu'on appelle Amazon. Moi, j'aime pas le terme Amazon. Là, c'est le nom.
Agodier
ou l'autre aussi. Ouais. Les Agodier. Il y a un autre nom aussi là, pour les désigner.
Ah, ok. Ce sont des Amazons de
bah, on les appelle les Amazons dans le fond, mais c'est un terme. Blanchisé, occidentalisé. Okay. Mais bref, qu'est-ce que les Béninois? Je rappelle quand même que les fameuses Amazones, celles qu'on appelle Amazones, c'est-à-dire l'armée guerrière de Dahomey, qui était le royaume de Dahomey de l'époque, qui a donné lieu au Bénin actuel. Donc cette armée est célébrée à travers l'histoire. Hein. Leur histoire a aussi inspiré le Black Panthers, là,
etc. Ouais.
Donc là, Viola Davis elle fait partie de la distribution là des rôles de ce film. Donc et puis bon, ça a pris les salles le samedi passé, je pense, au box office, ça a quand même bien cartonné. Puis Viola Davis a fait pas mal de promotions à l'effet de soutenir la place des femmes noires dans le cinéma, parce que c'est essentiellement un film dont la distribution est vraiment noire. Là. Il y a beaucoup de personnes noires. Puis elle a encouragé les gens d'aller regarder ce film pour soutenir les femmes noires dans le cinéma. Mais là, apparemment, au Bénin, l'histoire n'est pas très...
De la manière dont je le concevais, je pensais que ça allait vraiment hyper les Béninois et puis l'ensemble des Africains, mais ce n'est pas vraiment le cas là. Parce que techniquement, là, ils ne sont pas venus chercher des Africains ou bien des Béninois pour jouer dans le film là. Donc, ils se sont restés entre Américains et puis ils ont joué un film. C'est comme s'ils nous ont produit un film pour dire, regardez, on est en train de retracer votre propre histoire. Il faut que vous en soyez fiers. Tu vois un peu? Ouais. Mais qu'est-ce que nous, on en gagne dedans? qu'est-ce qu'on en gagne de la distribution ou bien quelle est la promotion que vous êtes venu faire sur le territoire?
Oui, c'est ça, aussi, c'est les Amazones, les minots. Les minots,
les minots. Mais c'est quoi le bénéfice pour le Bénin, en fait?
Est-ce que le tournage n'a pas eu lieu au Bénin? Non, il paraît non, non. Je pense. Ouais, c'est ça, j'ai appris.
Je pense que c'est en Afrique du Sud.
Oui, il paraît que le tournage n'a pas eu lieu au Bénin. Donc, aucune retombée, aucun impact pour le Bénin, dans le fond, à part la mythologie, célébrer la mythologie.
Ouais, à part le fait que l'histoire soit retracée pour qu'on dise, oh, ok, ça vient du Bénin, des Azomando, de Dahomey et tout. Ça révèle le Bénin d'une manière ou d'une autre, je suis d'accord. Ouais. Mais je pense que les retombées ne sont pas aussi conséquentes pour les Béninois que je le souhaiterais.
J'ai lu aussi sur le site internet un Yoruba,
okay,
qui a dénoncé le film. Mm-hmm. Parce qu'il dit, on célèbre le fait d'armes du roi de l'époque, le 19e, 20e siècle, mais ce roi était un esclavagiste pour les Yoruba. Il dit qu'il avait capturé, il a lancé une conquête des royaumes Yoruba, qui était le royaume voisin, pour capturer des Yoruba qui revendaient aux Européens.
C'est possible.
Donc, lui, il appelait à relativiser un peu. Tu sais, on célèbre à travers l'Afrique, peut-être, je dis l'Afrique c'est vaste là, mais les gens, les Africains célèbrent cette histoire là des Amazones du Bénin avec le roi de l'époque, là j'ai oublié le nom.
Béanzin ?
Non, le roi esclavagiste là, je veux retrouver le nom.
Il y en a plusieurs.
Oui, mais celui du 19e siècle là.
Mais ils se sont succédés là.
Je veux te retrouver le nom tantôt. Bref, on célèbre cette histoire là alors qu'il y a un pan sombre aussi. C'est-à-dire ce royaume-là, ces guerrières ont pratiqué l'esclavage interne, quelque part. Ouais, ils ont conquis le Yoruba. Bah, c'est normal, je veux dire. À l'époque, comme dans sur tous les autres continents, les royaumes se faisaient les guerres et puis se capturaient.
Exactement. Ils voulaient la main-d'œuvre aussi, tu vois.
Mais là, le problème, c'est qu'ils vendaient.
Oui, mais le commerce triangulaire, là, tout le monde est responsable hein, d'une part ou d'une autre.
Les élites africaines sont.
Il y a une chanson de chez nous, sentez pas Sagbouran Danialo, c'est un orchestre béninois et très talentueux et tout, qui disait à qui la faute dans ce commerce triangulaire. Parce que c'est nous-mêmes qui revendons nos bras valides aux Européens en contre. Bon, techniquement.
Je suis pas tellement d'accord avec toi.
Non, je te parle de la chanson, en fait.
Il y a l'offre. Ah, ok, la chanson.
La chanson disait, mais c'est nous-mêmes qui revendons les esclaves aux Blancs et tout. C'est vrai, il y a eu des razzias et tout, là, totalement, tu vois. Ouais. Mais il disait, mais le commerce triangulaire, là, c'est un péché entre Blancs et Noirs, tu vois.
Ben, je suis pas d'accord avec ces musiciens parce que il y a une question de l'offre à la base. De la demande, je veux dire, il y a une question de la demande à la base, ouais, n'est-ce pas? C'est pas les Africains qui sont levés le matin. C'est ça, les Africains sont pas levés le matin pour dire voilà, on vend nos frères aux Européens.
Non.
Je pense qu'il y a une
ils sont pensée. Venus offrir des miroirs, des choses comme ça en contrepartie.
Mais il y a une l'Europe est un continent guerrier par définition hein. C'est ils n'avaient rien à manger, ils sont allés conquérir le monde pour avoir des richesses, les épices, les matières premières. Fait qu'il y avait une volonté impérialiste à la base et donc évidemment, comme on le voit dans toute guerre de conquête, les élites souvent s'entendent bien. Donc les élites européennes, les élites africaines se sont entendues simplement pour. Donc je pense qu'il y a une lecture en termes de classe aussi à faire quand on analyse la traite négrière. Bref, ce que je voulais dire, c'est d'ailleurs que voilà, il y en a qui mettent un peu de bémol à ces films parce que cet épisode historique là, c'est qu'on raconte, qu'on célèbre. Ouais. Bah pour les Yoruba, ça n'a pas la même saveur.
Oui, mais il faut pas tout relativiser aussi parce que eux, ils sont partis vraiment prendre l'aspect guerrier que tu mentionnais au début là, ouais, pour vraiment apporter un peu de la fiction là. Tu es fait un film. Quelqu'un d'autre peut même reprendre l'histoire et faire un autre film à base de ça. Tu vois un peu.
Ouais.
Donc on peut en tirer plusieurs des millions de films de cette histoire parce que l'histoire ça a duré des siècles là. Donc techniquement, donc il faut. C'est pas juste parce que on a tiré une infime partie de cette histoire pour en faire un film qu'on va dire maintenant non, il faut dénoncer le film. Non, tu vois un peu. D'autres personnes peuvent s'en inspirer. Par exemple, le président Talon, quand il a fait la statue, là, t'as vu la statue qu'il a fait
Oui, chez vous, là.
Ouais, c'est ça qui représente, je sais pas, c'est comme au Sénégal, tu as la statue de la Renaissance africaine. C'est l'équivalent qu'il a fait au Bénin avec la statue de l'Amazone, tu vois.
Bah, c'est ça, il y a déjà une contre-vérité historique aussi. On dit. C'est Béanzin et non Guézo qui était roi à l'époque où le Dahomey a combattu les colonisateurs français. Mais dans le film, c'est Gezo qui est le roi du Dahomey au moment où le Dahomey luttait contre le.
Ah, ok, ouais, parce que c'est.
Donc il y a une contre-vérité historique.
C'est aussi les guerriers de Béanzin qu'on illustrait par les Agodiers et les Minos, là. Parce que les Minos, là, c'était vraiment. Quand on dit Minos, là, c'est la. Je pense que c'est la femme du roi ou bien la servante du roi.
Bah, c'est les guerrières, non?
Ouais, c'est ça.
Les guerrières. Ouais, mais bref, on disait donc le roi Gezo à l'époque. Lui,
ouais,
lui,
mais Gezo, c'est du père au fils, là.
Hein?
C'est la succession là, Gezo, Glélé,
Béanzin, c'est le dernier.
C'est la succession là.
Béanzin, c'est le dernier dans le fond.
Ouais, c'est du père au fils quoi, tu vois.
Okay.
C'est la succession.
Bon, mais intéressant. Oh là, il faut que j'appelle notre invité là. Parfait, mais je vous invite à aller regarder ce film là.
Mais on le fait de la publicité gratuite là.
Ouais, parfait, c'est notre histoire. Moi je vais aller regarder samedi de toute façon. Parfait, alors allez regarder The Woman King dans les salles de cinéma aujourd'hui. C'était très intéressant, un film à regarder, ne serait-ce que pour le critiquer aussi. Alors, après cette petite pause, nous allons appeler M. Edouard Kouassi. Je veux m'entretenir avec M. Edouard Kouassi pour parler de la question des Noirs et de la santé au Québec. Bon. Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes bien sur CKIA 88.3 FM à l'émission Dignité Noire. Alors, comme annoncé, je reçois Monsieur Edouard Kouassi, qui est le président de l'assemblée de l'association le Québec Black Medical Association, l'association médicale des personnes noires du Québec. Bonsoir Monsieur Kouassi.
Bonsoir, comment allez-vous?
Très bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, juste pour situer le contexte, afin de favoriser le recrutement et l'admission d'étudiants et étudiantes issus des communautés noires et offrir un milieu de vie inclusif et représentatif de la société, la faculté de médecine de l'Université de Montréal a élaboré un plan d'action en partenariat avec votre association, l'Association médicale des personnes de race noire du Québec, et le sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires. Donc, le dévoilement de ce plan a eu lieu le 15 septembre dernier à l'Afro Musée de Montréal, un musée que j'ai promis de visiter, que je n'ai pas encore pu le faire. Donc, dans le cadre de ce lancement, je vous reçois pour m'entretenir avec vous des enjeux touchant la santé des personnes noires, mais aussi la place des jeunes noirs dans les sciences de la santé, dans les médecines, dans la faculté de médecine au Québec. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Pour d'entrée de jeu, je disais à mon collaborateur Brice, moi j'ai appris récemment l'existence de votre association. Pourriez-vous nous le présenter, mais d'entrée de jeu, peut-être vous présenter aussi à nos auditeurs, parce que c'est pas tout le monde, c'est la première fois qu'on vous reçoit sur nos ondes. Donc, Monsieur Edouard Kouassi, vous êtes pharmacien dans un hôpital de soins psychiatriques dans l'est de l'île de Montréal. Vous êtes professeur agrégé de clinique à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Vous avez obtenu un baccalauréat en pharmacie à l'Université de Montréal, puis une maîtrise et un doctorat en pharmacologie de la même université. Par la suite, vous êtes allé faire un stage postdoctoral à l'Université Claude-Bernard de Lyon en France pour vous spécialiser dans l'étude des relations complexes entre le cerveau et nos mécanismes de défense immunitaire. Donc, durant votre séjour, vous avez aussi complété un diplôme d'études approfondies en immunologie et un doctorat d'état en sciences pharmaceutiques option immunologie, et vous dirigez l'association médicale des personnes noires depuis 5 ans. Est-ce que j'ai bien, je vous ai bien introduit?
Tout à fait. Merci beaucoup de l'invitation. Alors, je peux dire un mot de notre association, l'Association médicale des personnes de race noire du Québec. C'est une association qui vit maintenant depuis 30 ans. Elle a été fondée au départ par le docteur Ellery Tucker, qui est un médecin gynécologue originaire de Trinidad, dans les Caraïbes, qui a donc fondé cette association avec comme objectif très clair dès le départ de promouvoir la santé des communautés noires ici au Québec. Alors, nous avons poursuivi donc cette mission-là. Et parmi nos activités, nous offrons du soutien aux étudiants qui se dirigent vers les disciplines de la santé, pas seulement la médecine, mais les sciences infirmières, les sciences fondamentales, les autres sciences de la santé, ergothérapie, physiothérapie, pharmacie, etc. Alors, donc c'est notre objectif principal et c'est le travail que nous attachons à faire. Alors, en collaboration, bien entendu, avec d'autres organismes communautaires ici au Québec. Et donc, c'est un peu dans ce cadre aussi que nous avons travaillé avec l'Université de Montréal pour préparer donc un plan d'action pour favoriser l'accès des étudiants noirs aux professions de la santé. Alors, donc, on pourra en parler plus en détail si vous voulez.
Parfait, c'est ça. Pour d'entrée de jeu, l'enjeu de la... C'est pas la première fois là, qu'on entend parler de la sous-représentation des personnes noires dans les facultés de médecine. Est-ce que vous avez des données là-dessus? Je ne sais pas si vous avez des données à l'échelle de la province ou juste à l'échelle de Montréal. Est-ce qu'on a des données pour illustrer cette sous-représentation? Parce que sur la question de l'exclusion, là, c'est pas évident d'avoir les données. Sans les données, on ne peut pas trouver des solutions, on ne peut pas lutter. Est-ce que vous avez des données là-dessus?
Oui, tout à fait. Vous avez raison. Sans les données, il est difficile de se prononcer et... dans le domaine de la sous-représentation des Noirs, d'abord, de façon générale, dans le domaine médical, c'est pas simple d'avoir les données parce que le Collège des médecins, par exemple, ne nous permet pas d'avoir une bonne idée là des Noirs qui pratiquent la médecine. Donc, c'est contre leur règlement. Et donc, il est difficile d'avoir... une idée très juste là de la situation. Mais on sait par exemple qu'au Canada, de façon globale, en 2015 par exemple, il y avait seulement 2,3% des médecins qui se déclaraient comme des gens issus des communautés noires. Alors que la population noire au Canada représente, pendant les statistiques les plus récentes, là autour de 3,5%. Également, au niveau des étudiants qui sont admis donc pour faire des études de médecine, les statistiques dont on dispose, là, malgré leurs limites, bien, c'est que c'est plutôt faible. Et quand on regarde donc la proportion d'étudiants âgés de 15 à 34 ans, donc des gens qui sont susceptibles d'aller dans les écoles de médecine, eh bien, ils représentent 1 à 2 % seulement. Quand ils sont issus des populations noires, ils représentent 1 à 2% seulement. Par exemple, McGill qui a sorti des chiffres récemment, les étudiants noirs représentaient 1,5% des étudiants admis à l'école de médecine. À l'Université de Montréal, c'est pas loin. Et à travers le Québec, on estime que la proportion des étudiants noirs, eh bien, c'est autour de 1,2% seulement à travers le Canada. Donc, vous voyez, c'est pas des chiffres très représentatifs de notre communauté et il y a là très manifestement une sous-représentation parce que au Québec, je pense que les jeunes noirs représentent bien plus que ça, là, autour de 5%. Et dans les grandes villes comme Montréal, par exemple, je pense qu'on estime à autour de 8%, 8,3%. Les jeunes noirs qui sont capables d'aller dans l'université et faire des études de médecine. Alors, donc, l'écart est vraiment très grand. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on travaille, nous, en collaboration avec les universités et avec d'autres organismes communautaires pour mieux comprendre c'est quoi les obstacles à l'admission des étudiants en médecine et dans d'autres domaines de la santé et comment on peut travailler pour pouvoir trouver des solutions donc à ceci.
Mais justement, alors, quels sont les obstacles qui empêchent nos jeunes, les jeunes de nos communautés, d'accéder à ces facultés?
Alors, les obstacles sont multiples. C'est tellement multiple. Quand on regarde bien, on se rend compte que déjà, au départ, pour rentrer en médecine, dès les premières étapes, là, c'est là qu'on voit qu'il y a une différence très nette. Donc, les étudiants noirs ne sont pas sélectionnés pour aller plus loin. Donc, c'est difficile d'avoir les étudiants si dès le départ, on ne les laisse pas entrer dans les programmes. Ensuite, lorsqu'ils parviennent à rentrer et qu'ils vont aux entrevues, eh bien, il n'en reste pas beaucoup qui parviennent à rentrer dans les écoles de médecine. Et parmi les éléments qu'on peut faire ressortir, là, c'est que les comités de sélection qui font les entrevues, jusqu'à présent, en tout cas, étaient composés en grande majorité d'arbitres qui ne sont pas du tout issus de la communauté noire. Alors, donc ça, c'est un frein important. Alors, mais dans notre plan d'action avec l'Université de Montréal, il y a quand même des changements qui se pointent à l'horizon et on est très, très content de voir que les choses bougent. Et parmi les bonnes nouvelles là, qu'on a, c'est que dans les comités d'entrevues, ce qu'on appelle ici les mini-entrevues multiples, qui sont des genres d'entrevues donc, qui sont organisées pour recruter les étudiants. Et c'est le même type d'entrevue dans toutes les écoles de médecine francophone au Québec. Eh bien, pour la première fois cette année, on a réussi à recruter pour l'Université de Montréal des arbitres, donc des professionnels de la santé qui pouvaient faire partie de ce comité-là, au nombre de 8 personnes. Donc 8 personnes, alors qu'on partait de zéro là. Okay. Alors donc 8 personnes qui ont donc été recrutées pour participer aux entrevues. Et alors c'est toujours un facteur favorable lorsqu'on est capable de voir quand un étudiant se présente, qu'il voit que devant lui, eh bien, la personne qui fait l'interview est une personne noire comme lui ou comme elle, et qui peut se refléter donc dans cette personne-là. C'est plutôt encourageant pour l'étudiant qui se dit alors que donc c'est possible pour lui aussi d'aller plus loin, d'aller en médecine et de pouvoir servir sa communauté. Alors donc c'est un des changements très très favorables que nous on note là pour la toute première fois. Donc pour l'année académique 2022-2023, c'est un changement qu'on accueille très favorablement. Un autre changement, si vous le permettez, que je vais vous donner, et c'est des chiffres très très chauds là, qui sortent si vous voulez.
Oui, allez-y.
C'est que pour l'Université de Montréal, eh bien, le nombre d'étudiants noirs admis en médecine pour la cohorte 2022-2023 est monté d'une moyenne qui était autour de 4 ou 5 étudiants seulement par année, elle est montée à 19 étudiants cette année. Alors, ce sont là d'excellentes nouvelles et évidemment, nous sommes intéressés à ce que cela se poursuive et s'améliore encore.
C'est intéressant ça, ce que vous nous dites là, c'est de belles avancées. Peut-être parlons un peu de ce plan d'action là. Moi, je l'ai parcouru hier en préparant l'émission. Il y a plusieurs aspects à recrutement, admission, curriculum, environnement d'apprentissage. C'est complet là, je pense que c'est très intéressant quand même. Soutien financier aussi en termes de bourse, etc. Personnellement, là, ça fait longtemps, ça fait 30 ans quand même que votre association existe. C'est quoi votre fierté? Oui. Qu'est-ce qui vous rend tellement fier dans ce plan-là? Quelle mesure vous tient particulièrement à cœur et pour vous aurait un grand impact sur les jeunes noirs, par exemple?
Alors, je pense que comme vous l'avez dit, il y a effectivement plusieurs axes d'intervention dans le plan d'action de l'Université de Montréal. On les a regroupés en 5 grandes parties. Là. Le premier axe, c'est le recrutement. Et évidemment, on veut faire tous les efforts possibles pour recruter les étudiants noirs et les encourager à poursuivre des études dans les disciplines de la santé. Le deuxième axe d'intervention, c'est celui de l'admission des étudiants. Quels sont les critères d'admission? Est-ce qu'ils sont adaptés aux populations noires? Le troisième axe, c'est le contenu même des programmes d'enseignement, ce qu'on appelle le curriculum. Donc, est-ce que ces enseignements-là qui sont donnés aux étudiants tiennent compte des réalités que vivent les communautés noires? Alors, c'est quelque chose qui est très, très important également pour nous.
quatrième axe d'intervention, c'est effectivement l'environnement d'apprentissage. Est-ce que on peut travailler à ce que les étudiants étudient dans un environnement qui est exemple de discrimination, d'agression de toutes sortes? Alors c'est cela donc qui nous préoccupe aussi. Puis effectivement le cinquième axe d'intervention, c'est celui du support financier. Il est important de soutenir financièrement les étudiants pour qu'ils puissent poursuivre leurs études. Alors, qu'est-ce qui nous tient le plus à cœur? Je dirais que tous les cinq axes sont fortement imbriqués les uns avec les autres, donc sont très, très importants. Mais pour nous, parmi les critères, les cibles qu'on vise, là, c'est de pouvoir augmenter la représentation des étudiants noirs. Et les chiffres qu'on commence à voir, là, l'évolution qu'on voit actuellement, me paraît un très, très bon signe. Là, j'ai donné l'exemple de l'Université de Montréal, mais l'Université de McGill, qui est également dans la région montréalaise, là aussi, il y a un effort très grand qui se fait. Et cette année, pour l'automne, là, ils ont réussi à recruter 23 étudiants noirs, alors qu'auparavant, la moyenne était autour de 5 seulement. Et même, ils disent qu'ils ont fait 400% d'augmentation du nombre d'étudiants noirs pour la rentrée cet automne. Alors, donc vous voyez, c'est un mouvement qui semble général et il est parti un petit peu de Toronto, je dirais, l'Université de Toronto, et il gagne maintenant le Québec avec la région de Montréal, l'Université de Montréal, et on est très, très, très heureux de ceci. Et je dois vous dire aussi que pour Montréal, en tout cas, ce n'est pas un hasard, hein, les changements qu'on voit là. Les deux universités se sont réunies il y a un an, en avril 2021, pour faire ce qu'on a appelé un forum citoyen, avec le soutien de l'association haïtienne que vous avez mentionné, le Sommet des Jeunes, et de notre association en nom, l'Association médicale des personnes de race noire du Québec, pour réfléchir justement aux obstacles dont je viens de parler brièvement et les voies pour parvenir à lever ces obstacles-là et faciliter, améliorer l'admission des étudiants noirs dans les facultés de médecine et les autres facultés donc de sciences de la santé. Et par la suite, chacune des universités a donc pris dans les conclusions de ce forum-là les aspects qui s'appliquaient davantage à elles. Donc chacune des universités a pris ce qui pouvait les aider à améliorer les plans qui étaient en cours ou qui étaient déjà lancés. Alors, donc, c'est en cela que, à l'Université de Montréal, on a pu donc, faire le plan d'action qui a été lancé là, récemment, le 15 septembre.
Là, c'est quand même les chiffres que vous donnez, là, les augmentations d'inscription des étudiants noirs à McGill, de 400%, par exemple. Ça veut dire qu'il y a des candidats, il y a des jeunes qui oui. sont volontaires, qui veulent bien étudier en médecine, mais qui avaient des barrières systémiques qui les empêchaient d'y aller. D'où vient ce... Pourquoi les universités, à un moment donné, là, se réveillent? Est-ce qu'il y a un facteur quelconque? Qu'est-ce que c'est lié, par exemple, je sais pas moi, au Black Lives Matter depuis il y a 2 ans, la mort de George Floyd? Quel facteur qui a débouché un peu la voie, là, si je puis ainsi dire?
Oui, alors, il y a sans doute plusieurs facteurs qui ont joué favorablement dans ce cas-ci. Alors, vous avez mentionné le meurtre de George Floyd aux États-Unis, 2020. Ça, je pense que ça a été un élément déclencheur à travers le monde, pas seulement au Québec. Le monde pour mettre fin aux injustices et dans le milieu académique, je pense que les gens se sont rendus compte qu'il était temps de refléter davantage la diversité de la société dans laquelle nous vivons, ici au Québec et au Canada, au sein de facultés qui forment donc la relève de demain, y compris dans le champ de la santé. Alors je pense que c'est pas les facteurs qui ont joué, il y a ces éléments-là. Et les universités prennent de plus en plus conscience de la nécessité là d'une certaine équité et aussi d'une diversité dans les universités. Et je pense que à différents niveaux, notamment au niveau du gouvernement fédéral, il y a des mesures qui se prennent pour encourager les universités à aller dans ce sens-là. Il y a par exemple dans certains programmes de recherche que je connais assez bien, il y a des chaires de recherche qui sont offertes aux universités, qui sont attribuées ensuite à des chercheurs. Et le gouvernement fédéral, à travers les organismes subventionneur a mis en place des règles qui font que pour pouvoir continuer à bénéficier de ces chaires de recherche-là, il faut que les universités recrutent pas seulement des chercheurs blancs, mais aussi des chercheurs de la diversité, des chercheurs de minorités visibles, des chercheurs avec des handicaps physiques ou autres. Donc, il faut refléter la société dans laquelle nous vivons. Donc, il y a là quand même un incitatif important qui fait que les universités, on pourrait dire, n'ont pas beaucoup le choix de suivre ces indications-là, parce qu'autrement, leurs sources de financement vont tarir. Ouais. Je pense que c'est une bonne chose et ça permet donc aux minorités comme les Noirs au Canada de pouvoir obtenir finalement en fait leur place. Notamment dans le domaine de la santé qui nous intéresse.
Mais là, j'ai l'impression que ça reste quand même une dynamique très montréalo-montréalaise. Là. C'est McGill, l'Université de Montréal. Est-ce que votre association entend aussi mener cette dynamique dans d'autres universités comme à Sherbrooke, à l'Université Laval, à Québec, etc. En région, je veux dire, hors de Montréal.
Oui, absolument. Excellente question. Nous, notre organisation, elle est à l'échelle du Québec au complet. Et je dois dire que au Forum citoyen qui a été organisé en 2021, même si c'était sous l'initiative de l'Université de Montréal et de McGill, on y a invité des représentants des autres universités qui donnent des programmes de médecine au Québec, notamment l'Université Laval, l'Université Sherbrooke aussi, donc avec des représentants qui étaient là. Et nous, on espère fortement que le mouvement qui est en cours là, va gagner les autres universités aussi. Alors,
on espère.
Oui, absolument.
Mais c'est un bon plan d'action. Moi, j'ai lu, par exemple, dans ce plan d'action, ils ont prévu de développer des contenus de cours intégrant des réalités vécues par les communautés noires, sensibiliser, offrir des formations sur le racisme et les diverses formes de discrimination aux corps professoraux, encadrer les milieux de stage, superviser les stages, sensibiliser les gens, les encadreurs aux formes de bonnes pratiques en équité, etc. Je pense que c'est quand même un bon pas. Mais il me semble que il y a encore des corps de métier dans le domaine médical où nous sommes nombreux, mais on nous donne toujours les miettes, j'ai l'impression. Hein. Je veux parler des métiers. Bon, je dévalorise pas les métiers en soi, là, préposés oui. Ou infirmiers. Ben, là, on va retrouver beaucoup de personnes noires. Mais quand il faut oui. monter un peu plus, être médecin comme vous, là, ça devient un peu plus compliqué, par exemple. On dirait qu'il y a un toit de verre là, infranchissable. Là.
Oui, effectivement, c'est l'impression qu'on a. Quand on regarde bien, là, il y a effectivement des professions dans lesquelles les Noirs sont, je dirais, surreprésentés. Donc, c'est la situation tout à fait inverse. Mais pour autant, ils ne sont pas mieux traités. La plupart du temps, dans ces professions où les Noirs sont surreprésentés, eh bien, les revenus ne viennent pas nécessairement avec les tâches qu'ils nous adressent. Alors, oui, il y a des vrais problèmes là aussi.
Qu'est-ce que vous comptez faire dans ce domaine-là? Est-ce que c'est un chantier auquel vous pensez aussi?
Absolument. C'est un chantier auquel on pense, mais comme vous savez, on ne peut pas tout faire à la fois. Ouais. Mais c'est un chantier auquel on pense. Et notre organisme, une de ses activités, c'est, comme je disais tantôt, d'offrir un soutien aux étudiants. Et nous, nos programmes de bourse, dès le départ, ils sont offerts pas seulement aux médecins, mais aussi aux infirmiers et infirmières, et comme je l'ai mentionné au début, là, à toutes les professions de la santé. Donc, nous, on est très portés à soutenir les personnes issues de la communauté noire, quelles que soient les professions dans le domaine de la santé. Et là où il y a des problèmes, nous, on veut contribuer avec d'autres, bien entendu. On n'est pas seul intéressé à faire ça. On est intéressé à contribuer à améliorer la situation. Et parce qu'on pense qu'en bout de ligne, ce ne sont pas seulement les communautés noires qui bénéficient d'une meilleure situation, d'un meilleur sort des professionnels de la santé noire. C'est la société québécoise dans son ensemble.
Ben oui, surtout maintenant, on voit, on est en pénurie de main-d'œuvre, on en a besoin, là. Puis, moi, il m'a été rapporté, notamment pour les préposés, les infirmiers, là. Il y a un RPA, la résidence de personnes aînées ici à Québec. Il m'a été rapporté que cette RPA refuse d'embaucher les personnes noires, hein, les préposés noirs.
Oui.
Les infirmiers, infirmières, Ils me racontent des mots très racistes qu'on leur balance à la figure, sans compter les patients qui ne veulent pas recevoir des soins d'eux. Fait que je pense que peut-être il y a aussi quelque chose à faire dans ce domaine-là. Mais comme vous dites, un pas à la fois, hein, on prend une bouchée à la fois, on ne peut pas tout faire. J'ai mon collaborateur qui a une question là pour vous, Brice.
Oui.
Un jeune noir, peut-être qu'il veut aller en médecine, je ne sais pas.
Non, je ne vais pas en médecine, mais dans le cadre de mon travail, je travaille beaucoup avec des préposés. Je reçois beaucoup de préposés à la banque et tout. Et ce que je constate le plus souvent, c'est quand ils viennent d'Afrique, ils ont eu des diplômes d'État en infirmerie. Ils sont vraiment des infirmiers, sages-femmes en Afrique. Et quand ils viennent ici en tant que résident permanent, ben, ils commencent d'abord par être préposés aux bénéficiaires, en fait. Donc, c'est pourquoi c'est surreprésenté. Donc, on dit, commencez d'abord par le poste de préposé. Après, vous allez monter par le poste de infirmier auxiliaire. Après, vous allez devenir infirmier. Maintenant, pour devenir infirmier ou infirmière, il faut faire une formation de 9 mois au CIGEP. Bon, il y a une accommodation. Okay. Donc, la formation de 9 mois, c'est vraiment pour les mettre dans le bain de le système de santé ici, ouais. Du Canada, du Québec et tout. Donc, okay. Beaucoup ne franchissent pas cette étape-là. Ah, okay. Finir cette formation et de réussir à l'ordre des infirmiers, à l'examen de l'ordre. Donc, d'autres, par exemple, se retrouvent dans le poste de préposé et puis stagnent dedans. Mais ceux qui sont consistants, genre, ils ont la
persévérant.
Discipline. Persévérants, ils vont jusqu'au poste d'infirmier.
Il y a le piège, c'est comme il y a une petite piège là dans ce truc. Mais je comprends que oui. Quand tu arrives ici comme une famille, avec une famille,
oui, avec
tu commences
enfants,
à travailler.
Bah,
après, aller faire 9 mois sur les bancs d'études, c'est pas évident.
Parce que c'est 9 mois d'études sans travailler. Hein.
En plus.
Donc,
mais là, monsieur Kouassi, il y a quelque chose à faire là. Peut-être qu'il faut voir avec le gouvernement, oui. Là, de changer un peu les règles.
Alors, oui, peut-être à cause du son, j'ai manqué un petit peu une partie de la question qui a été posée. Je ne sais pas si vous m'avez... Si
oui, c'est ça. Dans le fond, Brice disait que... Oui. Il y a des immigrants africains, par exemple, qui arrivent ici, diplômés déjà. Ils sont soit infirmiers chez eux, mais quand ils arrivent ici, on leur demande, oui, de commencer par préposer, le poste de préposer. Puis après, ils doivent, oui, suivre une formation pour devenir infirmier, une formation de 9 mois sans travailler. Et donc, beaucoup, oui, hésitent. Soit ils réussissent pas le diplôme d'infirmier, ou alors ils, oui, vont même pas suivre la formation parce que il faut travailler pour nourrir la famille. Il y a d'autres contraintes.
Ils reçoivent des allocations quand même.
Quand ils sont étudiants.
C'est ça. Ouais, c'est ça.
Alors, c'est ça, je me dis, peut-être qu'il y a quelque chose à faire là.
Oui, absolument.
Là, au niveau de la reconnaissance des qualifications obtenues à l'étranger, là.
Absolument. Ça, c'est un dossier très, très important, la reconnaissance de la formation des gens qui viennent de l'étranger. C'est un dossier que le gouvernement du Québec n'a pas vraiment tout à fait résolu encore. Et nous, on va contribuer, comme je disais tantôt, avec d'autres, pour pouvoir aller de l'avant, pour que les gens qui viennent et qui sont déjà formés à l'étranger, on puisse reconnaître leur formation tout en s'assurant, bien entendu, qu'ils s'intègrent aux réalités d'ici, mais dans un temps raisonnable. Mm-hmm. Et effectivement, comme vous le mentionnez, là, il est difficile de poursuivre deux liens à la fois, de laisser tomber, en fait, la formation pour laquelle on veut que les gens... la formation qu'on veut qu'ils fassent pour pouvoir pratiquer la formation, en laissant de côté pour aller travailler, en fait, pour trouver les sous.
Ouais, pour nourrir la famille.
C'est ça. Donc, et comme vous mentionnez, il y a effectivement comme un piège, et on vous demande de vous former en même temps. On ne vous donne pas les moyens, hein. Ouais. Il faut d'abord survivre.
J'aimerais, on est presque à la fin, il me reste une minute là. J'aimerais vous entendre quand même sur un aspect.
Oui.
Les cas des soins que nous recevons, là, il y avait le cas d'une Camerounaise qui est décédée l'année dernière parce qu'elle a été négligée, on ne l'a pas traitée. Moi, on m'a raconté le cas, le service de référence en périnatalité là, des femmes ici. On a fait des émissions là-dessus. À l'hôpital, oui, c'est un cas connu, hein, la stérilisation forcée des femmes noires et autochtones, la violence, le fait qu'on pense dans les hôpitaux que les femmes noires supportent mieux la violence que d'autres. Il y a le cas de Joyce là, qui a donné lieu au principe de de Joyce. Je ne sais pas si vous, à votre niveau, vous plaidez aussi pour un genre de principe de Joyce pour les personnes noires afin de protéger les patients noirs qui vont à l'hôpital, parce qu'il y a une sorte de violence physique et même de discrimination qui s'exerce aussi sur les personnes noires qui vont dans les hôpitaux. Est-ce que le principe de Joyce, là, quelque chose qui peut être repris aussi pour nous, par exemple?
Tout à fait. Je pense qu'il y a des préjugés raciaux, hein. Il ne faut pas se le cacher. Le fait de penser, par exemple, que des Noirs supportent mieux la douleur que d'autres, on ne sait pas trop sur quoi ça s'est basé. Alors, donc, il y a ce genre de préjugés pour lesquels on doit s'assurer que la population est bien formée. Et pas seulement la population dans son ensemble, même les soignants eux-mêmes.
Tout à fait, c'est vrai.
Donc, c'est ça. Donc, les soignants. Et c'est pour cela que dans les plans d'action des universités, dans, y compris l'Université de Montréal, on s'assure que les futurs médecins vont aller dans les milieux où vivent les communautés noires pour connaître leur réalité. Et donc ça, c'est très important. Aller voir comment les gens vivent. Et on sait qu'il y a des facteurs qui font que la santé des personnes noires, la santé est vraiment hypothéquée. Mmh. Et quand on regarde dans l'épidémie de COVID-19, qu'on est en train de traverser, là, les Noirs sont beaucoup plus touchés que les gens qui ne sont pas noirs.
Exactement.
Je pense que tout le monde est bien conscient de ça. Pour des facteurs multiples, parce que souvent, ils vivent dans des quartiers où les revenus sont plus faibles. Et il dit dans le quartier où la proportion de soignants par rapport aux personnes qui devraient soigner, la proportion est très faible.
Exactement.
Même dans des régions comme Montréal, il y a ce qu'on appelle des déserts médicaux. Et si on prend par exemple l'exemple de Montréal-Nord, un quartier où il y a une forte densité de membres issus des communautés noires, eh bien, il n'y a pas beaucoup de médecins comparé à d'autres quartiers dans Montréal. Donc, c'est des situations qui sont extrêmement déplorables et qui font que il nous faut travailler réellement ensemble pour que les Noirs soient soignés au même titre que les autres, que leur santé physique ou mentale soit qu'on tienne cela en compte et qu'il n'y ait pas de discrimination sur la base de la couleur de la peau pour soigner les gens.
Parfait, mais merci beaucoup. Et puis je pense que ce plan d'action en est un premier pas. Nous allons en reparler probablement pour faire le suivi et l'évaluation de ce plan-là. Merci beaucoup, Monsieur Édouard Kouassi. Je rappelle que vous êtes président de l'Association médicale des personnes noires de Québec. Je vous recevais tantôt là pour discuter du plan d'action pour l'inclusion des personnes, des étudiants noirs dans les facultés de médecine. Merci beaucoup de votre disponibilité à une prochaine fois.
Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.
Merci, au revoir.
Bye bye.
Mesdames et messieurs, vous êtes bien sur CKIA 88.3 FM. Alors, on va pas faire une pause parce que là, on est déjà pas mal en retard. Là, j'ai dit à Michel Renzi qu'il devrait passer à 40. On est à 46. Là, j'ai pas tenu ma promesse. Salut Michel.
Salut.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Tu lui as donné le micro au Brice, s'il te plaît? On va reprendre. Salut Michel.
Salut. Salut Bye.
Là, j'entends mieux.
Au plaisir.
Alors,
d'être là.
Ta première chronique. Tu nous trimbales. Vous êtes à Haïti, je rappelle que toi, tu tiens une chronique sur la pensée haïtienne. Donc aujourd'hui, tu jettes la lumière sur un pan de l'histoire haïtienne.
Exactement. Alors j'ai le goût de commencer ma chronique par un numéro qui touche, comme tu dis, un pan de l'histoire d'Haïti, un moment très fort de l'histoire d'Haïti, soit la crise de 1915. Alors une crise qui a officiellement enlevé à cette jeune nation ce qui fait le respect d'un pays, à savoir sa souveraineté. Et depuis, 107 ans plus tard, il est de plus en plus difficile de parler d'Haïti comme une nation souveraine. La crise de 1915 renvoie à l'occupation américaine d'Haïti qui, officiellement, a duré 19 ans. Donc, tout a commencé un 28 juillet 1915. Le 28 juillet 1915, il y avait des troupes de l'infanterie de la marine des États-Unis, de l'Amérique du Nord des États-Unis, qui ont débarqué à Port-au-Prince et qui ont pris possession de la République d'Haïti, évidemment au nom du gouvernement américain. Donc il existe quand même une grande littérature sur cette tranche humiliante, moi j'ai envie de dire ça, dans l'histoire de ce pays, ce petit pays de 27 750 km². Je songe notamment aux travaux de Suzy Castor, c'est un classique, les travaux de Roger Gaillard, c'est des classiques également, de Georges-Eddy Lucien et d'autres que sais-je. Mais pour aujourd'hui, j'ai un parti pris particulier pour un ouvrage d'un intellectuel haïtien, un homme d'État également, qui lui a été témoin de cette occupation. D'ailleurs, quand son ouvrage est paru, le premier de ses ouvrages qui parle de l'occupation américaine est paru pour la première fois, c'est l'occupation militaire d'Haïti par les Américains battait encore son plein. On était à peine, en fait, c'était déjà 16 ans que l'occupation américaine durait. Je parle évidemment de Dantès Bellegarde et de son ouvrage intitulé « L'occupation américaine d'Haïti, ses conséquences morales et économiques », un ouvrage qui est paru en 1929 et réédité en 2013 par les éditions Fardin. Alors, je vais me focaliser sur deux moments forts de cet ouvrage. Il y a un premier moment où Dantès Bellegarde s'en prend au motif qui aurait justifié l'occupation américaine. Pour lui, cette occupation a été une violation des règles de la justice internationale, parce qu'il n'y avait aucune justification juridique de cette violation. Il n'y avait aucune justification juridique dans la mesure où Haïti n'avait fait aucune insulte envers le drapeau des États-Unis. Là, je cite Dantès Bellegarde. Il n'y avait aucun citoyen américain qui a été molesté en Haïti. Il n'y avait aucune dette contractuelle envers les États-Unis dont Haïti refusait de s'acquitter. Et à cette époque, Haïti avait une dette, évidemment, mais c'était uniquement envers la France, la fausse dette de l'indépendance. Mm-hmm. J'aimerais bien en parler dans l'une de mes chroniques, d'ailleurs, la dette de l'indépendance, qui fait encore écho, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, la double dette de l'indépendance, on va dire. Donc, on reviendra là-dessus certainement dans une de mes chroniques. Alors, au regard, là, je continue avec Dantès Bellegarde, au regard du droit international, c'était un État souverain qui jouissait évidemment de la pleine autonomie qui est reconnue aux puissances étrangères. Haïti, à l'époque, c'était signataire du traité de Versailles et membre originaire même de l'ASDN, la Société des Nations, qui plus tard va être transformée en ce que vous savez. Alors, fort de cela, Dantès Bellegarde va rejeter le prétexte selon lequel cette intervention a eu lieu au nom de l'humanité. C'est ce qu'on prétextait parce qu'il y avait trop de troubles révolutionnaires dans le pays. Dantès Bellegarde va rappeler ceci, j'aime bien cette citation, je vais vous la dire. Des actes horribles, grèves sanglantes, massacres politiques, expulsions en masse, lynchages, se sont produits et se produisent encore dans des Balkans, en Russie, en Chine et même aux États-Unis d'Amérique, sans que le gouvernement américain s'en émeuve le moins du monde. Les écrivains yankees racontent avec des cris d'horreur la mort brutale de Wilbur Guillaume Sam. Cela seul leur paraîtrait justifier l'intervention des États-Unis dans les affaires intérieures d'Haïti. Ne savent-ils donc pas ce qui se passe chez eux? Tout récemment, dans une petite ville du sud des États-Unis, un jeune nègre accusé dont on ne sait quel méfait fut tiré de sa prison, brûlé vif sur la place publique, pendant que la foule, ivre de joie homicide, tournait autour du bûcher en ponctuant ses chants de victoire de coups de revolver tirés sur le cadavre en flammes. Il ne viendra à l'esprit d'aucun Américain qu'un tel acte de barbarie puisse donner, par exemple au Japon, le droit de débarquer des troupes à San Francisco et déposer sa loi aux États-Unis au nom de l'humanité. D'ailleurs, comment peut-on dire que cette intervention a eu lieu au nom de l'humanité quand on sait que seulement dans les 4 premières années d'occupation, les soldats américains ont massacré, parfois au milieu de supplices atroces, plus de 3500 paysans haïtiens. On reviendra là-dessus. J'aimerais bien présenter une chronique où je présenterai l'occupation américaine d'Haïti à partir des chiffres, les conséquences de l'occupation américaine à partir des chiffres. Un autre argument de Dantès Bellegarde, c'est de dire qu'Haïti a été en difficulté à maintes reprises et les États-Unis d'Amérique n'avaient rien fait pour aider ce pays alors même que le droit était de son côté. Par exemple, le 6 juillet 1861, l'amiral Rubalcava est arrivé au nom de l'Espagne en Haïti et a menacé Port-au-Prince de ses canons et extorqua du gouvernement haïtien une forte indemnité pécuniaire pour punir Haïti d'avoir donné son aide fraternelle aux patriotes dominicains combattant pour leur indépendance. On sait qu'Haïti a été indépendant avant la République dominicaine et Haïti a aidé la République dominicaine à se libérer de la colonisation espagnole. On peut ajouter un deuxième exemple. Le 11 juin 1872, il y avait un capitaine allemand qui a infligé le plus sanglant affront au drapeau haïtien et qui a obligé Haïti à lui payer une forte indemnité pour la punir d'avoir manifesté ses sympathies à la France pendant la guerre de 1871. Alors, selon Dantes Bellegarde, la vraie motivation de l'intervention militaire des États-Unis en Haïti en 1915 est d'ordre financier. Il soutient l'idée que c'est pour permettre à quelques Américains de disposer à leur guide du trésor haïtien et de satisfaire leur instinct de domination que l'occupation militaire d'Haïti a été faite et qu'elle est maintenue. Tout le reste est mensonge. Et dans la perspective de légaliser cette intervention, du moins les actes qui en découlent, les Américains ont imposé une convention, la convention de 1918. Par cette convention, de l'avis de Dantes Bellegarde, les Américains ont tué la démocratie naissante en Haïti. Pour soutenir cette idée, en voici ses arguments. Par exemple, à deux reprises, les Américains ont dissous le Parlement haïtien. De ce quoi, ils ont supprimé l'exercice du droit de vote en Haïti. Donc du coup, le peuple haïtien a été totalement écarté de la constitution des gouvernements de son pays. Les Haïtiens ont été forcés de payer des taxes qu'il ne leur est pas permis de discuter. Le conseiller financier à l'époque était un citoyen américain. C'est lui qui crée les impôts, c'est lui qui décide du tarif douanier. Les décisions des tribunaux haïtiens n'avaient aucune importance pour lui. En plus, il fait remarquer que la constitution de 1918 a été rédigée par M. Franklin Delano Roosevelt, qui à l'époque était secrétaire d'État à la Navy, plus tard va devenir président des États-Unis. Donc, pour couronner le tout, Dantes Bellegarde, il explique qu'une politique de domestication a été mise en œuvre par les Américains. Et pour preuve, tous les fonctionnaires haïtiens étaient réduits au rôle d'assistants ou d'adjoints de blancs américains. Aucun ingénieur haïtien n'était admis à prendre une décision. Un deuxième moment, pour faire vite, c'est, puisqu'on est bousculé par le temps, l'occupation américaine, soutient Dantes Bellegarde, n'a pas conduit Haïti nullement à la prospérité. Ça, c'est une idée qu'on va retrouver dans d'autres travaux qui se portent sur cette tranche de l'histoire d'Haïti. Comme argument, il a montré, par exemple, la production du café en Haïti n'a pas augmenté, qui à l'époque était le point fort d'Haïti. Les Américains s'opposaient systématiquement contre toute mesure de développement de l'agriculture en Haïti. L'auteur a fait savoir que les Américains ont même mis en place un tarif douanier qui a supprimé toutes les franchises dont bénéficiaient des machines qui étaient destinées à l'agriculture et à l'industrie en Haïti. L'exportation n'a pas augmenté, tandis que parallèlement, les experts américains sont importés en nombre de plus en plus considérable. Ils ont imposé des taxes excessives sur les objets de première nécessité, ce qui a renforcé la misère du peuple haïtien. En effet, il y avait même des distributeurs incapables de trouver des avances nécessaires pour payer de nouvelles taxes réclamées par l'État, qui ont dû fermer leur guildive. Donc ce sont des taxes qui bénéficiaient notamment aux Américains en plus. Donc pour preuve, Haïti, dont le peuple a tant faim à l'époque, comme l'explique Dantes Bellegarde, a pourtant prêté de l'argent à Wall Street. Donc à la faveur de cette taxe, le pays contribuait au développement des affaires par exemple, de la National City Bank et d'autres établissements financiers aux États-Unis. En plus, Dantes Bellegarde a fait remarquer que à eux seuls, le haut commissaire, le receveur américain des douanes, le directeur américain des contributions, le chef américain du service d'hygiène, le chef américain des travaux publics, le directeur américain du service technique d'agriculture contrôlait 83% du budget de la République. D'ailleurs, selon Dantes Bellegarde, les Américains ont nourri tout un mépris envers les Haïtiens qu'ils percevaient comme un peuple inférieur. Ils nourrissaient un complexe de supériorité raciale vis-à-vis des Haïtiens. Ce complexe se traduit notamment dans le refus même d'accorder aux Haïtiens le droit de contrôler l'usage qui est fait de leur argent, qui est le fruit de leur travail. En fait, voilà ma manière de faire une entrée, on va dire, une entrée en matière en ce qui concerne l'histoire des relations haïtiano-américaines. Je vous promets certainement d'autres numéros qui vont éclairer davantage sur ces relations en général et sur l'occupation militaire d'Haïti par les Américains en particulier à travers d'autres travaux beaucoup plus pointus et dont la scientificité, évidemment, ne pourra faire objet d'aucun doute valable.
Bah, j'ai le goût de continuer à t'écouter. Hein. C'est tellement intéressant, ça. Alors, merci de nous faire découvrir cet auteur Dantes Louis Bellegarde avec son ouvrage « L'occupation américaine d'Haïti, ses conséquences morales et économiques ». Donc, tu disais que c'est réédité aux éditions Lumière en
2013,
hein, c'est récent, ouais, ça. Peut-être qu'on pourrait l'avoir dans les bibliothèques
de
Québec aussi.
C'est l'un des jobs de ces éditions, c'est essayer de redonner une seconde vie à des travaux haïtiens qui disparaissent, quoi.
C'est une édition haïtienne.
Oui, c'est en Haïti.
Parfait. Mais merci beaucoup, Renzi, pour cette belle première chronique, entrée en force, là. C'est une première en force. Mais on aime ça. Ici, c'est une émission d'Unité Noire, c'est une émission qui ose parler de ce que les gens ne disent pas ailleurs. Merci beaucoup, mon cher.
Au plaisir.
On se retrouve dans 2 semaines.
Dans 2 semaines.
Parfait. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce soir, mon cher Brice. Je ne sais pas s'il y a une autre nouvelle à annoncer. Sinon, qu'il y a les élections, il faut quand même faire notre devoir de citoyen, Brice. Je ne sais pas si tu as déjà voté. À toi, tu votes pas.
Je ne suis pas citoyen.
Oh là là, qu'est-ce que tu attends, toi?
J'ai lancé ma résidence, je ne suis pas encore.
Ah ouais, bon, à la prochaine élection, tu vas voter, là, dans 4 ans.
Ouais, peut-être.
Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en période électorale au Québec, donc on vote dans 1 semaine. Hier et aujourd'hui, c'est le vote par anticipation. Lundi prochain, donc le 3, le jour de notre prochaine émission, ça va être le vote. C'est très important d'aller voter. Quand on est citoyen, qu'on a la possibilité de voter, il faut le faire. Nous invitons toutes les personnes noires de la ville de Québec, tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent, noirs, pas noirs, allez-y voter, c'est important. Comme on dit, celui qui ne vote pas n'a pas le droit de chialer. N'est-ce pas?
How you say it so hot?
Cheese, his name is Cheese.
They say they don't fuck with me, but I say they can't fuck with me. Just like the girl, I'm everywhere. How you say it so
hot? Poppin' shit. You would think I went to school for chiropractic. Looking good as hell today, just sent my nigga five attachments. Why'd you come from me about a nigga, man? You bitches back for that. They come at me about niggas who I don't even find attractive. I don't know that nigga, I just seen them on the town before. I can't be up in her face, I took her nigga down before. When I lose a nigga, I just pop out and go find some more. Soon as I feel like my time get wasted, then it's time to go. They say they don't fuck with me, but I say they can't fuck with me. Just like the air, I'm everywhere. How you say it so with me? Them bitches should've stay down, they could have been up to me, but all they doing is talking down, cause they can't get up with me. My ex fucking on my old friend, both they ass some fucking clowns. Thinking that she got one up on me, she got my hammer down. He thought he won't gon' have to stand on shit like he was handicapped. Made that nigga stand on it, now his ass can't stand me now. High as fuck, I'm lit, yup, I don't smoke no sweet shots. Slime with my gang and them, looking them like sisters. These bitches be lame, they go out sad about these niggas. I don't wanna hang with them, they don't have no business. They be gone for anything, but I can't go for none of it. Why would I go chase you if I know you gon' come running back? Cut everybody off, they leave been feeling like the lumberjack. They really get me fucked up, and now I'm going for none of it. She the type that nigga make her mad, she going too soon. Me, I'm kinda ratchet still, so I'm the type to be on. I can't love you, baby, like your bitch do, so don't leave.